Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous jusqu'à maintenant, en ce petit mardi légèrement pluvieux. Nous allons parler du vaccin AstraZeneca en première heure d'émission. C'est important de faire la lumière un peu sur les dernières avancées là-dessus. Il est possible que dans la conférence de presse de 13 heures, que nous allons d'ailleurs diffuser, je vous le dis tout de suite, soyez là, eh bien, c'est possible que le ministre de la Santé élargisse officiellement le groupe d'âge ciblé pour recevoir ce vaccin. Ce qu'on se doute qu'il soit annoncé tout à l'heure, c'est qu'on avancerait l'âge, en fait, à 40 ans. Ça voudrait dire que les 40 ans et plus pourraient, s'ils le veulent, donc si vous le voulez, si vous avez 40 ans et plus et que vous voulez vous faire vacciner tout de suite, ben vous pourriez passer directement dans un centre de vaccination et recevoir le AstraZeneca. Évidemment, il y a plein de questions qui entourent toujours encore aujourd'hui au moment où on se parle. Ce vaccin, je vous le rappelle, la semaine dernière, il y a des pays qui ont décidé de ne pas du tout vacciner leur population avec ce vaccin-là, même si l'Organisation mondiale de la santé le rappelait encore dernièrement. Il semble que les bénéfices soient toujours plus grands que les risques, malgré le fait qu'il y ait effectivement eu des cas de thrombose. Fait qu'on va parler de ça, mais je voulais aussi vous parler d'une chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est que on apprend, entre autres, qu'en Italie, on a décidé de, presque j'allais dire punir, mais je pense que c'est un peu le mot finalement, de dire aux travailleurs de la santé qui ne sont pas vaccinés, mais qui refusent de se faire vacciner, bien écoutez, si vous refusez, vous allez devoir être mis à d'autres tâches que la vôtre, si vous travaillez en santé, et ultimement, si vous refusez cette nouvelle tâche qu'on vous assigne, vous allez devoir être privé de salaire. Ça, c'est effectivement à la suite du cas d'une infirmière. Ça a vraiment fait une controverse en Italie. Une infirmière sicilienne qui a refusé carrément de recevoir le vaccin contre la COVID. Et elle a eu quand même gain de cause à un tribunal du travail. Et il semble que là-bas, les employeurs pouvaient suspendre sans salaire un employé qui refuse de se faire vacciner. Fait que, tout ça pour dire que le sujet est quand même intéressant dans la mesure où, on l'a dit jusqu'à maintenant, ça doit être un geste volontaire. En même temps, quand tu es un travailleur de la santé, est-ce que tu as bien le choix? Fait que c'est un peu la question que j'ai envie de vous poser. Devrait-on obliger le personnel de la santé à se faire vacciner? On a un décret qui ressemble un peu à ça, nous aussi. On l'a pas trop discuté, mais depuis le 9 avril dernier, il y a eu un décret du ministre de la Santé, ministère de la Santé et des Services sociaux, qui dit que toute personne salariée, là je cite le décret, toute personne salariée doit fournir à son employeur la preuve qu'elle a reçu une dose du vaccin COVID. Et les personnes salariées doivent passer un minimum de 3 tests de dépistage par semaine et fournir les résultats à leur employeur. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette preuve-là, ou que la personne salariée refuse le test, elle sera réaffectée à des tâches visées éventuellement. Elle ne recevra aucune rémunération. Je peux vous le dire, ça brasse dans les milieux syndicaux. On est là-dessus avec mon équipe ce matin, on les a joints, ils nous l'ont dit au téléphone qu'ils n'étaient pas contents, mais bon, ils hésitent avant de prendre la parole publiquement là-dessus parce qu'il y a des discussions, semble-t-il, avec le ministère de la Santé. Fait que ça se peut que ça change un peu, mais aujourd'hui, je trouve ça quand même intéressant d'en discuter ensemble. Est-ce que effectivement on devrait obliger le personnel de la santé à se faire vacciner. On va tout de suite aller rejoindre le Dr François Marquis. Il est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, Dr Marquis.
Bonjour.
C'est intéressant parce qu'on s'en parlait justement hier, vous et moi. Vous me disiez que 98-99% de vos collègues médecins sont vaccinés, mais que vous travaillez au quotidien avec des gens qui ne le sont pas, du personnel de la santé, qui ne l'est pas forcément. Il y a encore beaucoup de réticences, François Marquis, dans les milieux hospitaliers, CHSLD et autres.
Oui, définitivement. Et on voit là, cette différence-là entre le corps médical qui est massivement vacciné et les autres travailleurs de la santé qui ont un petit lag en arrière. Là, ils n'ont pas les mêmes réussites de vaccination. Et c'est très intéressant de voir les raisons pourquoi. Mais c'est un fait qui existe. Là. Chaque corps de métier a un pourcentage de vaccination différent.
Comment vous voyez ça, vous, ce décret qui est daté du 9 avril, qui a été finalement peu discuté, mais qui est quand même lourd de conséquences? Parce que ce qu'on comprend, c'est que, à la lumière de ce qui s'est passé en Italie, entre autres, puis il y a peut-être d'autres pays où ça s'applique également, mais au Québec, en tous les cas, ce que dit ce décret-là, qui fait donc force de loi, c'est que normalement, une personne qui travaille dans le réseau de la santé et des services sociaux doit fournir une preuve de vaccination, à défaut de quoi, si elle maintient son refus, après qu'on l'ait affectée même à d'autres tâches, si elle refuse ces tâches-là, cette personne-là pourrait ne pas pouvoir réintégrer son milieu de travail et ne recevra donc aucune rémunération. Donc, en gros, ce que ça veut dire, pour faire simple, c'est fais-toi vacciner, puis si tu refuses, on peut te changer de job, puis si tu refuses cette job-là, bien, reste chez vous, puis tu n'auras pas de salaire.
En fait, c'est même un peu plus complexe que ça parce que c'est pas juste pour les gens qui refusent. Il y a vraiment une égalité, c'est si tu n'as pas été vacciné. Et ça inclut autant ceux qui ont des vraies, très bonnes raisons médicales de ne pas être vaccinés. Il y a très peu de gens dans cette situation-là, mais ils existent. Et en fait, dans le sud de l'est de l'île de Montréal, les quelques médecins qui ne sont pas vaccinés, c'est essentiellement pour des raisons de santé majeures. Donc, même ces médecins-là, eux autres, ils diraient, ou les travailleurs de la santé en général, qui diraient, quand moi, je veux être vacciné, mais je ne peux pas être vacciné, ces gens-là aussi, le décret s'applique. Ça, c'est pas juste ceux qu'on a l'impression qu'ils refusent le vaccin. C'est toute personne non vaccinée et il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, il faut garder à l'esprit plusieurs choses. La première, c'est qu'on est on travaille dans un milieu avec des gens vulnérables dont la dernière chose qu'ils ont besoin, c'est d'attraper la COVID, encore moins par le milieu traitant. Ça, c'est un aspect. Mais le deuxième aspect à ça, c'est que chaque travailleur de la santé vit dans un milieu dangereux où il peut attraper la COVID et on doit s'assurer, comme employeur, d'avoir un milieu sécuritaire. Et donc, les travailleurs non vaccinés représentent, en fait, pour eux, chacun représente un risque de santé pour l'autre. Et c'est donc très important. Moi, je vois l'analogie suivante. Si je veux travailler sur un chantier de construction, il y a toute une série d'équipements de protection que je dois avoir. Je dois avoir mes bottes, je dois avoir mon casque. Si je veux travailler sur le chantier de construction, puis que je dis, mais moi, je veux pas porter de casque, ben ils me laisseront pas rentrer sur le chantier. Nous, nos bottes à cap d'acier, puis notre chapeau jaune, c'est nos vaccins. Et si on ne peut pas avoir ça, bien, c'est normal, quant à moi, qu'on me mette dans un endroit où je serai protégé et où je vais protéger les autres. Et si je veux rester sur la ligne de front, bien, je devrais m'assurer de ne pas être positif. C'est un choix peut-être que je suis prêt à prendre, le risque pour moi-même, mais je n'ai pas à faire assumer ce risque-là aux autres qui ne sont pas vaccinés. Et donc, je dois être dépisté aux 3 jours. Et ça, le dépistage systématique, il était existant bien avant le décret. Les unités ultra-froides, comme les unités de greffe, hématologie, des choses comme ça, ils avaient déjà un programme de dépistage rapproché pour éviter une éclosion et permettre à des gens plus vulnérables d'avoir accès au système de santé. Donc, faut quand même pas, comme on dit, capoter sur le décret. Ouais. Il y avait déjà des choses, puis il y a une belle logique en arrière de ça.
Ouais. En même temps, protéger. Je comprends votre analogie, Dr. Marquis, avec le casque de construction, c'est vrai. Mais ça n'a pas tout à fait la même implication qu'un vaccin qu'on nous inocule. Je pense qu'il faut... Il y a quand même une... Ça me paraît important qu'on ne rentre pas la vaccination dans la gorge des gens puis que même les travailleurs de la santé puissent dire, pour toutes sortes de raisons valables, je suis d'accord qu'elles doivent être valables, mais il faut que ça reste un geste volontaire, non? De se faire vacciner.
Le geste reste volontaire pour l'instant. C'est juste que quand on fait des choix dans la vie, il y a des conséquences. Et si, pour une raison ou une autre, mon choix, c'est de ne pas être vacciné, ben il y a des conséquences pour assurer ma sécurité et assurer la sécurité des autres. Parce que si une personne non vaccinée attrape une maladie COVID sévère et après ça est invalide pour des mois de temps, c'est quand même la société qui va devoir payer ça dans le contexte d'un accident de travail. Il y a ça. Maintenant, ce qui est surtout beaucoup plus intéressant, c'est de regarder pourquoi les gens ne veulent pas se faire vacciner.
Oui, voilà, j'allais venir.
Décortiquer les raisons. Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces raisons-là que simplement, en s'assoyant et en jasant avec les gens, on est capable de briser la réticence et de faire en sorte qu'ils vont aller volontairement se faire vacciner. Et ça, c'est beaucoup plus positif que de leur enfoncer le vaccin dans le fond de la gorge.
Ouais. Et justement, Dr. François Marquis, vous êtes allé, vous, il y a quelques jours, faire de la prévention dans un CHSLD, une certaine opération conviction pour que les gens, justement, les travailleurs de la santé qui s'y trouvent, comprennent le pourquoi et acceptent de se faire vacciner. Puis ça a eu un bon impact.
Oui, effectivement. En fait, je pense que ça a eu un bon impact des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a eu un bon succès de vaccination. Là, je lance les chiffres comme ça, mais il y a au moins 60 personnes qui sont allées se faire vacciner après la visite. Il y avait moi, il y avait Dr Zan aussi qu'on voit dans The Garde 24/7, il y avait notre PDG qui était là aussi. Et moi, ça m'a beaucoup permis d'apprendre sur la diversité des raisons qui amènent les gens à refuser le vaccin et de reconnaître que là-dessus, l'information permettait de régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui est positif. Et je pense on pourrait répéter cette expérience-là localement, parce que clairement, les médias ou la disponibilité de l'information peut faire jusqu'à un certain point. Il reste que des gens aiment avoir une discussion un à un pour répondre à leurs interrogations et à leurs problématiques. Moi, j'ai eu beaucoup de questions qui étaient vraiment des gens qui, au-delà de juste dire non, c'est non, puis j'ai des droits, c'était des inquiétudes face à leur propre situation, leur propre santé, leur propre situation familiale, et qu'un 10 minutes de discussion, les gens disaient « Ah, OK, ben, je vais aller me faire vacciner », et on avait une équipe de vaccination sur place parce qu'on avait pris le temps de répondre à ça. Et j'ai vu aussi, malheureusement, l'influence excessivement négative de beaucoup de mauvaises informations, de désinformations, de fake news et de campagnes de peur. Et ça, on le voit, et c'est triste, des gens à qui j'ai appris que le virus n'allait pas les rendre stériles. Puis les gens, honnêtement, s'étaient fait dire par leur communauté, par leur source d'information, qu'il y avait des cas de stérilité, que c'était extraordinairement fréquent. Donc, des gens qui avaient juste pas eu la bonne information parce que ils croisent des médias puis de l'information différente. Et je dois dire que ça doit être un défi assez difficile pour quelqu'un qui ne parle pas français ou anglais ou qui n'est pas très confortable dans ces langues-là d'aller chercher de la bonne information, qui est quand même une information assez complexe là, à comprendre si on n'est pas parfaitement bilingue.
Oui, mais c'est une initiative vraiment intéressante, je trouve.
Bien, moi, j'ai...
Est-ce que ça vous allez leur faire?
Bien, ce que j'ai dit, c'est si mon horaire le permet, avec un plaisir féroce, parce qu'on voit les effets positifs, mais honnêtement, je crois que c'est une démarche qui avait été faite, là, qui avait été débutée là, dans le CHSLD comme tel. Ça vient vraiment de l'administration du CHSLD qui avait senti ça, mais au-delà que ça soit, je pense pas que c'est moi qui a fait une différence, là, mais d'avoir des unités de personnes qui sont capables de venir vulgariser, expliquer comment le vaccin fonctionne. Il y a des gens ici qui avaient juste pas l'impression que le vaccin, l'urgence du vaccin s'appliquait avec eux autres. J'ai jasé avec des gens dans les cuisines qui disaient, oui, mais nous autres, on est un peu dans un milieu protégé, puis... on fait de la bouffe et tout ça, mais du moment qu'on leur explique dans la chaîne de contagion à quel point c'est important de les protéger, il y en a beaucoup qui avaient juste pas senti leur importance dans le système de santé et que finalement, c'est une bonne chose parce qu'une fois qu'ils ont compris ça, qui est un maillon important, qu'ils devaient se faire vacciner pour cette raison-là, mais il y en a beaucoup qui sont allés se faire vacciner.
Ouais, mais ça, c'est fascinant. Il y a des gens qui disent aussi, il faut faire attention que ce genre de décret qui imposerait, par exemple, des sanctions au personnel de la santé, parce qu'il y a tellement déjà peu de gens, on le sait, là, c'est un problème de trouver des travailleurs de la santé en ce moment. Il y a pénurie, donc il y a un risque aussi. On ne veut pas les écœurer, on veut qu'ils restent de notre bord, on veut qu'ils jouent dans notre équipe, Dr Marquis.
Définitivement, mais en même temps, il faut se rappeler que la sécurité de nos usagers doit toujours être prioritaire. Mm-hmm. Et je crois qu'on ne peut pas non plus commencer, il faudrait surtout pas qu'on commence à faire des négociations du genre à quel point tu as besoin d'une infirmière et donc tu vas faire ce que je veux et ça va être à mes conditions. Ça s'appelle prendre la population en otage. Ça, c'est moralement et déontologiquement, pour moi, excessivement discutable. Il ne faudrait pas glisser de ce côté-là en disant « Ah, pénurie, c'est à nous de donner les règles, puis on va faire nos soins dans les conditions qu'on veut. » Ça, je pense que ça serait très, très, très mal vu de la part de la population de se faire prendre en otage comme ça. Maintenant, est-ce que ça prend 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 5 fois par semaine? De quelle façon? Tout ça, j'imagine, est discutable avec nos experts en santé, mais il est important de reconnaître que les gens non vaccinés peuvent être susceptibles et de transmettre de façon plus importante et de développer de façon plus importante une infection à COVID. C'est autant pour les protéger eux que de protéger les patients. Et ça, je comprends que les autres ne le voient pas comme ça, mais ça fait partie de la réalité.
On va revenir après la pause. Docteur François Marquis est avec nous, chef de service aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. On va vous parler, chers auditeurs, tout de suite après la pause. Vous me direz comment vous voyez ça. Est-ce qu'on devrait obliger, d'après vous, le personnel de la santé à se faire vacciner? Il y a quand même un décret là, qui est assez éloquent là-dessus. Comme dit le docteur Marquis, il ne faut pas capoter avec ça parce qu'on ne veut pas écœurer personne qui travaille dans le réseau. En même temps, il y a des implications, effectivement, pour vous quand vous y allez vous faire soigner dans ce même réseau. Puis on sera également sur la question du AstraZeneca. Vers 10h30, on aura également le docteur Dessert qui va nous faire un petit point là-dessus en vue de la conférence de presse de 13h où ça se peut qu'on élargisse donc le groupe d'âge pour se faire vacciner avec ce vaccin-là en particulier. 514-790-9850. Dites-moi si, d'après vous, on doit obliger un peu plus ou en tout cas faire de la grosse prévention. Le docteur Marquis nous l'a expliqué. Ça peut marcher quand on explique aux gens. Et quand on explique, les gens sont pas complètement fous. Ils comprennent. 514-790-9850. 1-866-790-9850. Devrait-on obliger le personnel de la santé à se faire vacciner parce que c'est important, parce que ça protège également les usagers qui vont se faire soigner ou qui sont donc dans un CHSLD, par exemple, où il y a beaucoup de soins qui sont donnés, on le sait. Ralph, bonjour. Vous semblez être ambivalent sur cette question, Ralph.
Oui, ambivalent. Bonjour, en espérant que ça va bien. Félicitations encore pour votre émission.
Merci.
Moi, je suis ambivalent dans le sens ambivalent. Moi, je comprends les deux parties. Je comprends ceux qui prennent une chance qui sont pour vaccins, ceux qui sont contre les vaccins. Et pourquoi? Je vais vraiment en fin de compte comme suivre le commentaire du docteur de Maisonneuve-Rosemont. C'est la désinformation. Moi, je trouve que c'est vraiment de la désinformation qui se passe. Et puis, je réitère son exemple avec le casque d'un cycliste, exemple. Pourquoi forcer un cycliste à mettre son casque? C'est juste le fait de ne pas vouloir qu'ils le mettent, il faut se poser la question. c'est ça le problème avec le vaccin. C'est pourquoi on ne veut pas. Puis moi, je parle beaucoup avec du monde. Mon travail, c'est de communiquer avec beaucoup de personnes. Puis beaucoup de monde, moi, qu'est-ce que je réalise? C'est que beaucoup de monde ne réalise pas que c'est une pandémie puis que ça mesure, que ça implique des mesures drastiques.
Encore aujourd'hui, 13-14 mois plus tard, vous pensez que les gens ne réalisent pas encore?
Moi, je pense que non. Je pense que non. Le monde ne comprend pas qu'on est dans une situation drastique. Les gens sont très désinformés. Les gens sont inquiets des fois aussi. Moi, je travaille beaucoup avec du monde. Et puis, même s'ils ont la vérité en face, il y a l'inquiétude, il y a la désinformation. C'est pour ça que moi, comme le docteur disait, c'est discuter, briser le silence. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de commission ou bien d'enquête publique par rapport à ça. Parce que c'est un problème mondial. Mais en fin de compte, c'est comme si tout le monde, chaque province, chaque pays, ils ont leur propre théorie. Donc, tout le monde écoute ça. Puis avec Internet, tout le monde suit tous les pays. On peut comprendre qu'il y a une partie qui est mélangée.
Merci beaucoup, Ralph. Effectivement, un sondage du Journal de Montréal hier nous disait, sondage léger, là, un tiers des Québécois pensent que le vaccin COVID a été créé en laboratoire. Je vous dis ça de même. Une personne sur trois qui a été sondée par le Journal de Montréal. C'est quand même beaucoup de monde qui pense que ça a été fait en laboratoire. Myriam est avec nous. Bonjour, Myriam.
Oui, bonjour. Bonne journée à tous. Le commentaire que je voulais vous faire part, c'est que une de mes filles, j'ai deux filles qui travaillent dans le réseau de la santé, puis elle s'occupe d'aller à domicile. Puis l'enjeu est beaucoup pour les employés de notre région. C'est vraiment la religion qui interdit les vaccins. Fait que ce que Dr. Merquier a fait part tout à l'heure, c'est justement ça leur implique dans leurs heures de hors travail d'aller se faire tester trois fois semaine. Comme je dis, c'est l'enjeu de ne pas amener ça à des personnes âgées dont ils doivent prendre soin. Mais c'est un très, très gros enjeu. Puis comme partout, il manque de personnel, fait que c'est très, très embêtant. Puis c'est ça, on s'en sortira pas si personne met l'épaule à la roue comme précédemment. Fait que c'est ça que je trouve très triste. Surtout, c'est pour prendre soin de nos propres parents, que nous, en tant qu'ils ne veulent pas les faire vacciner, bien là, c'est nous qui peut le transmettre. Puis on rend ces personnes-là malades et là, ça implique des fois sûrement des décès. Fait que c'est ça le commentaire que je voulais vous faire part. Ouais,
qui fait appel à la responsabilité de tout le monde. Là. Merci beaucoup, Myriam. Évidemment, là, je parlais de par rapport au sondage du Journal de Montréal, le sondage faisait référence au virus qui aurait été créé en laboratoire selon le tiers des Québécois. Ben est infirmier, justement. Bonjour, Ben.
Bonjour. Moi, je me suis fait vacciner, puis je suis totalement d'accord pour que les employés se fassent vacciner. Mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que le gouvernement tente de forcer les employés à se faire vacciner. Puis le problème, c'est que le gouvernement était où au début de la pandémie quand il refusait qu'on porte des N95 puis que la FIC a dû se présenter devant le tribunal administratif du travail pour demander des N95? Le gouvernement était où quand il nous refusait des jaquettes ou qu'on manquait de jaquettes? Le problème, c'est que je trouve que le gouvernement manque de crédibilité. Mm-hmm. Puis l'analogie du docteur Marquis avec le cas de construction puis les câbles d'acier, ben le gouvernement nous les fournit maintenant, puis c'est les pis. C'est bien d'aller plus loin, mais je trouve de forcer les gens à aller se faire vacciner sans faire l'enseignement de pourquoi le vaccin est important, je trouve que c'est manquer le bateau. Puis il y a des gens qui vont juste prendre un sens seul, ils vont juste se réorienter pour juste ou aller travailler dans le privé tout simplement.
Ben effectivement, c'est tous des bons points. Effectivement, j'ai envie d'aller voir ce qu'en pense le docteur François Marquis, chef de service aux soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont. C'est vrai que la période, on s'en souvient, c'est encore très frais à notre mémoire, docteur Marquis. On s'est beaucoup plaint dans le réseau de la santé qu'on n'avait pas le matériel sanitaire nécessaire. Les N95, ça a été une crise des masques pour le personnel de la santé, pour les médecins, pour les infirmières, dans les CHSLD également. On s'est plaint encore récemment de ne pas avoir tout ce qu'il fallait. Comment vous voyez ça? Ce commentaire de Ben, je trouve, il est intéressant.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs choses là-dedans. La première, il ne faut pas oublier que notre connaissance du virus à travers l'année qu'on a passée avec lui a immensément augmenté. Là, il y avait au début, il y avait... Oui, il y avait de l'improvisation parce qu'on n'avait simplement pas l'information. Il y avait des pénuries importantes et on avançait un peu à tâtons à savoir qu'est-ce qui était absolument nécessaire, de qu'est-ce qui était superflu. Et probablement qu'il y a des choses aujourd'hui avec toute l'information qu'on a qu'on ferait de façon différente, effectivement. Et ça inclut là-dedans, est-ce qu'on peut réutiliser ou pas un N95, la désinfection des surfaces, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'il y a probablement un lien de confiance qui est à rétablir. Il y a une main qui doit se tendre de dire, écoutez, je comprends là que il y a comme un double discours, mais il faut pas oublier là que notre connaissance du virus a augmenté et que le vaccin présentement, il est là, les doses sont disponibles et on peut pas non plus dire, ben parce que ça n'a pas été idéal au début de la pandémie parce qu'on n'avait pas stocké des millions de masques N95. Donc aujourd'hui, parce qu'on a des doses de vaccins, non, vous pouvez pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. On a cette opportunité-là de se protéger collectivement. Ce n'est pas le temps de s'auto-punir en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça parce que je crois que vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire de la façon que vous auriez dû le faire il y a 10 mois de ça. »
En même temps, je peux vous dire, ça brasse pas mal, docteur Marquis, là, parce que...
Tout à fait, et c'est normal.
On dirait qu'il y en a qui allument ce matin là, à nous entendre parler de ça. Je pense qu'il y en a qui n'avaient pas tout à fait compris l'enjeu de ce décret. Là, je viens de recevoir, sous le couvert de l'anonymat, parce que c'est un travailleur de la santé qui me dit que ça brasse beaucoup dans les syndicats, puis je viens d'avoir le mémo. Là. On vient de m'envoyer copie du mémo qui a été envoyé aux techniciens professionnels du CEMTL, le SCFP qui gère entre autres les travailleurs de la santé, du réseau de la santé. Et ce qu'ils disent en gros, c'est qu'il y a un grief syndical qui a été déposé pour protéger vos droits, je cite, là, et nous vous invitons, tout employé touché par cette situation, à communiquer avec nous afin de déposer des griefs individuels. Nous sommes à étudier la meilleure avenue juridique afin d'assurer le respect de nos droits. Donc, il y a quelque chose, il y a certainement, c'est pour ça, je pense, ce matin, personne ne voulait nous parler parce qu'ils sont en discussion avec le gouvernement et probablement qu'on risque d'avoir des précisions là-dessus, mais c'est important quand même, là, ce sujet-là.
Mais c'est important, c'est surtout important de discuter. Je pense que c'est là le point positif. Maintenant, il faut se rappeler qu'à la base de toute cette chose-là, on a des travailleurs à protéger et on a des patients à protéger et que, à quelque part, c'est beau le respect des droits, mais parmi les gens qui ne sont pas vaccinés, on se rappelle qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le vaccin, et ces gens-là ont autant le droit d'être protégés dans leur milieu de travail. Donc, à quelque part là-dedans, là, avant de dire on va faire abolir cette histoire-là de dépistage là aux trois jours, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le vaccin et que j'aimerais ça qu'on pense à ces gens-là et qu'on pense à les protéger plutôt que de simplement considérer comment on peut faire un bras de fer avec le gouvernement.
Exact.
Et j'invite ces syndicats-là à se rappeler qu'il y a de leurs membres qui ne peuvent pas être vaccinés et que peut-être eux autres aussi ont envie d'être protégés au niveau de la santé par le respect d'une procédure comme le dépistage systématique.
Marie, infirmière, m'écrit à l'instant, elle n'a pas été vaccinée. Elle dit qu'il y a trop de contradictions autour de cette pandémie. A-t-on pensé à l'autre revers de la médaille avant advenant qu'un effet néfaste pour quelqu'un comme moi, avec 14 allergènes et de grandes réactions au vaccin de la grippe, entre autres? A-t-on pensé à moi, dans le fond? C'est un peu le résumé de son mot. Infirmière, donc pas vaccinée, grosse contradiction pour elle. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Marquis, en terminant?
Bien, écoutez, il y a de multiples exemples dans le système de santé où une condition médicale personnelle a un impact sur les gens, les endroits où on peut travailler. Il y a des infirmières qui ont des agents biologiques qui ne pourraient pas, par exemple, aller travailler avec quelqu'un qui a la tuberculose. Il y a différentes choses. Les femmes enceintes qui ne peuvent pas s'approcher des chimiothérapies. Donc, moduler le travail en fonction de la condition de santé est une réalité de tous les jours dans le système de santé. Et il y a des gens qui ne peuvent pas avoir le vaccin et ces gens-là doivent s'attendre à avoir un impact sur leur profil de travail et c'est pour leur propre sécurité.
Voilà. Docteur Marquis, merci de prendre le temps de nous parler. Docteur François Marquis est chef de service aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rougemont. Je rappelle que Docteur Marquis nous a raconté tout à l'heure, il est allé convaincre des gens, faire une espèce de petit pep talk dans un CHSLD avec d'autres professionnels et ça a marché. Il y a 60 personnes qui ont accepté. Une fois qu'on leur a bien expliqué qu'on a été capable de répondre à leurs questions, 60 personnes ont accepté de se faire vacciner. Donc, vous voyez que souvent, c'est une question de... Effectivement, on a beaucoup parlé de désinformation. On essaye, nous, ce matin, de vous faire de la bonne information là-dessus. Intéressant, en tout cas, cette discussion sur le décret et sur ce qu'on peut ou pas obliger là, un membre du personnel de la santé à faire en matière de vaccination. On s'arrête ici. Il y a le docteur Gaston Deserre qui va nous parler du vaccin AstraZeneca. Est-ce que vous iriez vous faire vacciner avec ce vaccin-là si Québec l'offrait aux 40 ans et plus? On en discute tout de suite après.